bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que, comme toujours, le deuxième jour, il y en a plus au fond que devant. Alors, s'ils ont l'intention de dormir, j'espère quand même pouvoir les maintenir éveillés. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Est-ce qu'elle était bien, cette soirée?
Oui.
Est-ce qu'elle était bien?
Oui.
Ah, quand même. Bon, c'est vrai qu'hier, on a eu un certain nombre de choses intéressantes. Hein. J'ai vu Michel Rappel en Cléopâtre. J'ai vu... Jackie Bichot en parrain, on savait que c'était des fois un peu mafieux, mais là on le sait maintenant. Et puis effectivement, j'ai découvert que nos DR étaient tout à fait capables d'être très commerciaux avec Christophe Bouillet. Bon, trêve de plaisanterie, il y a un certain nombre de points sur lesquels on va revenir aujourd'hui. On a parlé effectivement hier de stratégie, de développement commercial. On va parler du sujet qui est quand même le plus préoccupant, qui est les pertes, parce qu'on peut toujours faire tout le développement commercial que l'on souhaite. Si on perd les clients, c'est un petit peu comme vouloir remplir une baignoire quand de toute façon vous avez un trou béant au fond. Vous pouvez toujours faire tourner les robinets à fond. Il n'y a pas grand-chose qui monte dans le niveau d'eau. Donc, c'est extrêmement important, effectivement, que nous traitions ce sujet des pertes. Si on regarde aujourd'hui, on perd à peu près l'équivalent sur l'ensemble des divisions de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, c'est plus que ce que fait une division comme Log et Prod, que fait HEP. Donc, c'est un vrai problème de fond. Alors pour autant, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été entreprises cette année avec des résultats qui ont commencé à être visibles dans certaines divisions, notamment l'EP, on l'a vu, avec pratiquement 0% de taux de perte. On l'a vu également sur Log et Prod, sur HEP, sur la partie espace vert. Bon, reste effectivement le sujet, la propreté, où on a encore des niveaux trop importants de perte. Et ça doit être notre priorité. On ne peut pas continuer à imaginer perdre autant de clients. Comme vous le savez tous, l'impact effectivement des pertes sur une agence, c'est dramatique. C'est déjà effectivement financier. Une agence qui perd de l'argent, c'est une agence qui perd des clients, c'est une agence bien entendu qui perd de l'argent, c'est une agence qui est en décroissance. Et à un moment donné, ce manque de chantier ne peuvent plus contribuer à amortir nos coûts fixes, donc décroissance mécaniquement effectivement de la rentabilité de l'agence, et on le verra tout à l'heure, on rentre à ce moment-là dans un cercle vicieux qui devient extrêmement dangereux. Humain, je pense que on s'en rend pas compte, mais hier Jeff le mentionnait, tous les ans c'est des milliers de collaborateurs qui rentrent, qui sortent, qui sont mutés. Chaque fois qu'on perd un client, que ce soit dans une des divisions, c'est un impact humain. Il ne faut pas croire que nos salariés, en propreté, ça leur fasse plaisir tous les X années de passer d'ISS à Honnêt ou à Samsic ou à qui d'autre. Mine de rien, si on vous faisait le même traitement, si tous les 3 ans je vous faisais changer d'employeur, je ne suis pas sûr que vous apprécieriez. Donc, mettons-nous aussi dans la peau de nos salariés, effectivement. Changer d'employeur, c'est aussi pour eux difficile. Et puis dans les activités où il n'y a pas forcément de transfert de personnel, se retrouver effectivement sans chantier, parfois recaser sur des chantiers plus loin, ce n'est pas non plus quelque chose de forcément agréable. Donc un aspect humain à ne pas négliger. Troisième point, c'est l'aspect d'image. Alors effectivement, ouais, on a perdu un client, c'est grave, mais il y a une image interne. Comment on peut être fier de perdre des clients? Moi, ça me... Voilà, si on fait bien son boulot, normalement, on doit être fier d'avoir des clients et de les garder. Donc, pour moi, ça doit être effectivement déjà personnel, le fait de perdre un client. Je peux vous dire que, à titre personnel, et je pense qu'une partie des équipes grand compte, voilà, perdre un client, c'est vraiment quelque chose qui nous fait mal et ça doit être le cas pour tout le monde. Puis l'autre point, c'est que d'un point de vue image, perdre un client, ça finit par se... Ça se sait et nos concurrents, ils ne demandent pas d'exploiter ce genre de choses. Ah, vous savez, ils faisaient tel chantier. Ils ne l'ont plus. Ils faisaient le Kibranli, le mur végétal. Ils faisaient telle usine. Ouais. Ils utilisent ça comme autant d'arguments pour expliquer qu'ils ne sont pas terribles chez ISS. Regardez, moi, j'ai repris leur chantier. Et du coup, ça finit par pénaliser aussi les ventes. Donc, on rentre dans quelque chose, effectivement, qui n'est pas très simple. Puis, il y a un autre point aussi, alors qui n'est pas spécifique à l'agence, mais perdre un client... aujourd'hui, c'est perdre des opportunités de faire du cross-sell, d'aller vendre nos autres métiers. On parlait hier beaucoup du multiservice, du multimétier. Si j'ai perdu le client, c'est plus difficile après d'aller lui expliquer que je vais lui vendre de la 3D, de l'hygiène de l'air, des espaces verts. Donc, garder un client, c'est non seulement garder effectivement le chiffre d'affaires, c'est garder la possibilité de faire des TE, de faire un certain nombre de choses, mais c'est aussi perdre la possibilité de pouvoir vendre d'autres activités du groupe. Et vous l'avez vu, c'est un des points importants. Quand on perd un client, on rentre dans un cycle infernal. Le cycle infernal, c'est le suivant. À partir du moment où on a des pertes, si on veut garder l'agence dans une condition, on va dire, rentable et dans une logique de développement, il n'y a pas le choix. Il faut compenser les pertes par les ventes. Alors, c'est comme ça qu'il y a quelques années, on disait, bah, là, on met 70 millions de pertes, puis on va mettre 70 millions de ventes. Ce qui était de toute façon pas décemment faisable vis-à-vis du marché français. Donc, on se dit, OK, on va compenser par les ventes. Mais généralement, comme on perd beaucoup, il faut aller chercher beaucoup de ventes. Et chercher beaucoup de ventes, il n'y a pas de secret. La tentation la plus rapide, c'est rapidement de baisser les prix. Donc, d'être agressif commercialement. L'impact immédiat, ça va dégrader la contribution, bien entendu, du chantier, puisqu'on vend moins cher. Et puis surtout, la contribution de l'agence. Si on regarde, j'ai fait sortir des contrats qui, parfois, certes, n'étaient pas forcément les plus rentables, mais je fais généralement rentrer des contrats qui sont encore moins. Donc, je dégrade la rentabilité de mon agence, je dégrade la rentabilité de ma région, et bien entendu, je dégrade la rentabilité d'ISS. Alors, comme personne, effectivement, n'aime ne pas faire ses résultats financiers dans la maison, alors on va tous, effectivement, trouver des moyens pour gagner des heures, pour faire parfois, effectivement, de la bonne productivité. Donc, la bonne productivité, c'est de s'assurer que chacun fait son boulot comme il faut, avec les bons outils, les bonnes méthodes et tout ce qu'il faut. Mais il y a aussi la mauvaise productivité qui parfois consiste effectivement à tricher vis-à-vis de ce qu'on a pu vendre aux clients. Et celle-là, elle crée une pression sur, bien entendu, la prestation. Elle crée une certaine démotivation des salariés. Et puis, rapidement, le client, il s'en rend compte. Il n'est pas dupe. Donc, des salariés peu motivés, une prestation pas toujours très bien faite, eh ben, il arrive quoi ? Il part. Et la boucle est bouclée. Et on ne s'en sort plus. Et quand on regarde, effectivement, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont dans une spirale infernale de ce type-là. Et il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen pour s'en sortir. Le point clé, généralement, vous l'avez compris, ça tourne autour de la qualité et de la satisfaction du client. Vous le savez tous, un client qui est satisfait, habituellement, c'est quand même plus facile de lui faire passer une revalorisation de prix. On l'a très bien vu hier dans vos petits films. Voilà, quand le client il est content, on peut essayer de venir le voir pour lui expliquer que ben, voilà, il est content, mais nous on a un peu de mal, il faudrait qu'il paye un peu plus cher. Il peut le comprendre. S'il est mécontent et que ça ne se passe pas bien, pointez-vous pour lui demander de payer plus cher, vous avez généralement un très bon accueil de sa part. Il vous dit très bien, je vais faire un appel d'offres. Donc, c'est important de maintenir ce niveau de qualité chez le client, et d'autant plus sur nos grands comptes, hein, parce que comme je l'évoquais hier, vous le savez, il suffit d'un endroit où ce n'est pas bon pour que ça remonte en haut. Et ce moment-là, c'est la prestation globale qui est jugée pas bonne. Et on passe notre temps à expliquer que non, il n'y a qu'un endroit. Bon, donc, point important. Donc, pour savoir si nos clients sont satisfaits, ben, il n'y a pas le choix. Ce n'est pas simplement demander aux responsables de chantier ou au chef d'équipe. Si ton client il est content, bien entendu, généralement, il va dire plutôt oui. Donc, l'idée, c'est d'interroger régulièrement nos clients. Alors, il y a pour ça, on va dire, un outil du groupe qui est l'enquête de satisfaction annuelle qui nous permet de recueillir le niveau de satisfaction que peuvent avoir nos clients. Alors, cette année, je trouve qu'on a effectivement fait un effort important puisqu'il y a eu 1858 clients qui ont été interrogés. On a eu 521 réponses. Alors, il y a deux façons de voir les chiffres. 521, je vous rappelle qu'hier, on disait 100 clients font grosso modo à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Bon, là, on n'est pas très loin, parce qu'avec les 521 réponses, on avait pratiquement 60% de notre chiffre d'affaires. Donc, on a quand même interrogé nos plus gros clients, on avait quelque chose de représentatif. Mais à la manière un peu d'Henrik, comme il l'évoquait hier, c'est-à-dire que j'ai quand même 1200 clients, sur un peu plus de 1200 clients, 1600, sur lesquels je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas s'ils m'aiment bien, s'ils ne m'aiment pas, s'ils sont contents, s'ils vont résilier. Donc, il faut qu'on travaille non seulement le nombre de répondants, mais également le taux de réponse. Donc il y a des régions qui sont arrivées à avoir d'excellents taux de réponse parce qu'ils se sont mobilisés pour faire de la relance, pour aller voir leurs clients, pour leur dire « ça serait bien que vous répondiez ». Puis il y a des régions, ça s'est moins bien fait. C'est d'ailleurs toujours un peu surprenant. On verra tout à l'heure des courbes, mais il y a certaines corrélations entre les taux de réponse, la qualité, la satisfaction des clients, la profitabilité. Donc on se posera 2-3 questions sur le sujet. En tout cas, c'est quand même cette fois plus que ce qu'on avait eu l'an passé pour la même enquête. On avait eu effectivement globalement moins d'une centaine de réponses en 2011. Donc en tout cas, c'est un net progrès. Et j'espère que l'an prochain, on pourra non seulement dire qu'on a au moins interrogé le même nombre de clients, mais surtout qu'on a eu au moins 70% de réponses, ce qui nous permettra d'avoir quelque chose d'encore plus représentatif de la satisfaction de nos clients. Alors, interroger les clients de manière quantitative, c'est bien. Ce qui est encore mieux, c'est d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et ce que je vous propose, c'est d'en écouter deux dont l'échéance de renouvellement est en 2013. Donc ce sont des clients dont l'an prochain, il va falloir qu'on s'occupe très particulièrement si on veut qu'ils restent avec nous. Donc je vous propose d'écouter ce qu'ils ont à nous dire.
Je suis responsable amélioration continue, hygiène, sécurité et environnement au sein d'une société qui s'appelle Rexam. Nous avons deux divisions, une division cosmétique et une division pharmacie, dans laquelle notre métier est l'injection plastique et on fabrique des pompes de pulvérisation. Donc avec la particularité pour l'activité pharmacie de travailler en salle blanche. Donc nous confions à ISS les activités propreté, sanitation et gestion des déchets ici sur le site. Et si ISS a été de nouveau consulté, c'est parce qu'en fait historiquement sur le site, ils assurent depuis presque 10 ans maintenant ces activités-là sur le site. Ils sont plus compétitifs dans leurs tarifs. Je suis assez insatisfait en fait de la prestation d'ISS. Je suis sur le site depuis 4 ans, d'autres collègues depuis un certain nombre d'années ont toujours connu ISS et voient une prestation qui se dégrade. On a en face de nous une société où le turnover est important, où les gens changent beaucoup et la communication avec nous ne se fait pas du tout, c'est-à-dire qu'on apprend ces changements le jour où ils surviennent. Ce que je constate aussi, c'est que dans la plupart des cas, les gens ne sont pas remplacés. Alors forcément, les prestations en pâtissent et aussi ça dégrade le climat au sein de l'équipe même d'ISS puisque les gens qui restent en poste se retrouvent à devoir faire la même prestation mais dans une équipe, par une équipe donc plus restreinte du fait des non-remplacements et le climat se dégrade, il y a un laxisme qui s'installe et une perte de motivation claire des équipes ISS. Lorsqu'ils soumettent le problème donc à leur hiérarchie, ils se sentent assez livrés à eux-mêmes. Savoir rebondir, c'est aussi une preuve qu'ils ont entendu leurs clients et qu'ils savent se remettre en cause qu'ils peuvent aussi être force de proposition. Et c'est pour moi les trois points faibles que je déplore le plus d'ISS à ce jour. Donc s'ils arrivaient à se corriger là-dessus, je pense que je pourrais être satisfait dans les mois, les semaines et les mois qui viennent.
Je suis directrice associée de la logistique et du service client à l'INSEAD. C'est un centre de formation Sud-Seine-et-Marne à Fontainebleau, un campus sur 8 hectares où il y a à peu près 1200 passages tous les jours. Donc INSEAD a choisi de sous-traiter la partie ménage-propreté à ISS. On a également d'autres prestataires de services qui s'occupent de la restauration, les espaces verts, les plantes intérieures et la sécurité. Donc nous avons choisi ISS en 2009 suite à un appel d'offres. On les a choisis pour des questions financières évidemment, mais aussi pour des questions de qualité, les touches qu'ils pouvaient apporter en plus, le personnel sur le site qui nous connaissait bien et qui répondait vraiment à nos besoins. Alors quels sont les points forts de ISS à l'INSEAD? Je dirais c'est les équipes du terrain qui sont là depuis très longtemps, donc ils font vraiment partie de la maison, on a vraiment l'impression qu'ils qui font partie de l'INSEAD. En général, ils habitent dans le coin, donc on a vraiment l'impression qu'ils sont avec nous, ils font partie des gens de l'INSEAD. Ils connaissent nos besoins, ils connaissent effectivement les attentes des clients, les demandes un petit peu farfelues, surtout des demandes de dernière minute. Et là, ils arrivent à agir avec une réactivité très bien. La partie moins bonne, c'est que, à force d'avoir les mêmes équipes sur le terrain depuis plusieurs années, du coup, on ne voit pas les choses comme il faut. C'est un peu comme à la maison, le papier peint qui n'est pas fini. Au bout de plusieurs mois, on ne le voit plus. ISS, de temps en temps, c'est un peu ça. Les traces sur les tables, les traces sur les doigts, sur les portes, etc. À force de les voir, on ne les voit plus. Et ça, c'est embêtant. Un autre problème que j'ai, c'est aussi donc la localité, le fait qu'on est à sud Paris. Dès qu'il y a une absence, dès qu'il y a une personnel d'absent, que ce soit dans l'équipe encadrement ou l'équipe du terrain, c'est toujours une manque. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui remplace. Et dès qu'il y a un absent, évidemment, l'équipe du terrain, ils sont surchargés de travail. Et c'est une grande campus, on est sur 8 hectares. C'est pas facile et on n'a pas effectivement cette réserve du personnel pour pouvoir venir en dernière minute pour absorber les surcroîts de travail ou les absences. J'attends de ISS aujourd'hui des vrais changements. C'est vrai qu'on arrive en fin de contrat, il y a un appel d'offres qui va avoir lieu prochainement. Moi, j'attends un petit peu le wow. Pourquoi choisir ISS? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter de plus que je n'ai pas eu les années précédentes qu'on a travaillé ensemble? Moi, mon point fort, c'est la qualité. Je voudrais qu'il y ait des contrôles qualité qui sont faits. J'aime bien avoir un dialogue avec la direction du prestataire qui est convaincant. Ce n'est pas que des mots, pas que du blabla. Moi, je veux de l'action. Je ne veux plus que des promesses écrites. Je veux voir un peu plus d'action.
Donc deux témoignages, j'ai entendu un certain nombre de bonnes choses, j'ai entendu effectivement réactivité, prix compétitif, mais je suis quand même beaucoup plus inquiet quand j'entends d'autres éléments comme laxisme, manque de communication, perte de motivation des équipes, dégradation de la qualité. Donc clairement, ce type, on va dire, d'entretien, cette possibilité d'aller écouter ce qu'on va dire nos clients, ça doit nous amener à nous remettre en cause, nous poser les bonnes questions pour redresser la situation. Je travaillais avec certains d'entre vous sur des chantiers, je pense par exemple à Arkema. Voilà, en y arrivant, j'ai cru que le directeur de l'usine allait nous jeter des pierres, ça n'était pas loin. Bon, en 6 mois, on est quand même arrivé à redresser une prestation avec maintenant quelqu'un qui, je l'espère, renouvellera sa confiance, mais on était parti de très bas. Donc rien n'est perdu, je pense que c'est un des points aussi à garder. Regardez, la première personne de Rexam, voilà, il a quand même aussi passé un message d'espoir. Si on leur montre qu'on est capable de s'améliorer, et j'ai pas de doute sur le fait qu'on puisse y arriver, on est capable de garder un client. Changer de prestataire, c'est pas non plus simple pour eux, à condition qu'on arrive à leur montrer qu'on est capable nous-mêmes d'évoluer et d'être un prestataire de qualité. Et puis vous l'avez vu, l'INSEAD par exemple, c'est des opportunités sur les espaces verts, sur un certain nombre d'autres choses à côté desquelles on passe, parce qu'effectivement chacun vit sa vie. Alors pour l'anecdote, il s'est trouvé que j'étais le week-end dernier sur le campus de l'INSEAD j'ai discuté avec nos équipes, puisqu'on a une permanence qui fait le samedi et le dimanche. ISS, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont une belle blouse marquée ISS, mais ils ne savent pas qu'on est présent en France. Ils savent vaguement qu'on a un groupe, ils ne savent pas très bien ce qu'on fait. Ils ne savent pas qu'on fait des espaces verts. Je pense qu'aussi, on a un devoir de communiquer davantage vis-à-vis de nos salariés pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, et puis pourquoi ils sont là, leur donner aussi du sens. Aujourd'hui, ils m'ont expliqué comment ils étaient chez Honnête. Bon, on leur a changé de blouse, ils n'ont pas vu grande différence. C'est des éléments, on va dire, fidélisants aussi. Si le salarié, il a envie de rester chez ISS parce que voilà, il voit qu'il a des perspectives, il y a une personne notamment qui me disait qu'elle avait envie d'aller bouger sur la Normandie. Si on arrive à leur montrer des perspectives, ce sont des gens qui seront d'autant de soutien et de support à ISS sur le terrain, qui auront peut-être envie d'être plus motivés qu'aujourd'hui, en disant, tiens, si on perd le contrat, on se retrouvera chez Samsic, on se retrouvera chez Atalian. Je pense que c'est aussi un élément important dans la fidélisation. Je pense que ça ne vaut pas simplement sur la propreté, mais également sur l'ensemble des divisions. Si on regarde les résultats globaux de l'enquête, finalement, on retrouve bien ces qualités. C'est-à-dire que 80% pratiquement de nos clients trouvent que voilà, on est réactif, nos salariés ont la bonne tenue, ils se comportent avec respect. Donc, on retrouve ces points positifs sur la satisfaction en termes de, voilà, ils sont réactifs, ils savent faire. Par contre, il n'y en a que deux tiers, si on regarde, hein, ISS respecte, délivre une prestation de qualité, il y en a à peu près deux tiers seulement qui sont d'accord ou plutôt d'accord avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un tiers qui considère que non, on n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et d'ailleurs, si on leur demande si on respecte les engagements, vous en avez quand même un quart qui disent pas du tout d'accord ou plutôt pas d'accord. Il n'y a pas de miracle si le client a le sentiment qu'on